Grand Angle sur Radio Orient.
En Turquie, des manifestations ont eu lieu suite à l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, une personnalité politique très importante en Turquie puisqu'il s'agit du principal opposant de Recep Tayyip Erdogan.
Et oui, Ekrem İmamoğlu, 53 ans, n'est pas n'importe qui en Turquie. Vous l'avez dit, il est le principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan. Il a été arrêté hier pour corruption et terrorisme et a passé la nuit au poste de police. Et le contexte de son arrestation interroge, puisqu'il devait être désigné d'ici la fin de semaine comme le candidat du Parti républicain du peuple, la principale force d'opposition pour la prochaine élection présidentielle de 2028. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'université d'Istanbul a annulé son diplôme d'études supérieures sans lequel il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Plus d'une centaine de personnes, proches collaborateurs ou élus de son parti, ont également été interpellés ou visés par des mandats d'arrêt. Le président du Parti républicain du peuple a dénoncé, je cite, « un coup d'État contre l'opposition ». Le seul crime d'İmamoğlu est d'avoir conquis le cœur des gens. Son seul crime est qu'il sera le prochain président, a-t-il déclaré. Vous l'aurez compris, la situation en Turquie est très tendue. Tous les rassemblements ont été interdits jusqu'à dimanche par le gouverneur d'Istanbul. L'accès à plusieurs réseaux sociaux et messageries, dont X et WhatsApp, étaient toujours restreints ce matin à Istanbul. Et les réactions sont nombreuses. Les maires de plusieurs villes européennes ont condamné l'interpellation d'Ekrem İmamoğlu, dénonçant son incarcération arbitraire, exprimant leur profonde inquiétude.
Et après l'arrestation du maire d'Istanbul, regard à présent sur des chefs d'inculpation et sur le contexte régional et international dans lequel cette arrestation est intervenue. Je vous propose d'écouter Jean Marcoux, professeur émérite à Sciences Po Grenoble et spécialiste de la Turquie.
Les accusations sont assez classiques, au regard des purges qui se sont déroulées auparavant. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des accusations qui portent sur ses liens présumés avec le terrorisme, c'est-à-dire on l'accuse d'avoir eu des relations avec des membres du PKK ou avec des gens qui ont été en relation avec le PKK, mais tout ça est bien sûr assez... C'est des accusations qu'on a déjà relevées aussi précédemment contre des opposants arrêtés. L'autre accusation étant des accusations de corruption, notamment malversation sur des marchés publics. Et là, effectivement, les médias pro-gouvernementaux, à l'heure actuelle, se répandent sur des soi-disant entreprises lucratives qu'auraient monté non seulement Ekrem İmamoğlu, mais toute une partie de ses collaborateurs, puisqu'il faut préciser qu'il n'y a pas eu que l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, mais il y a eu l'arrestation massive de plus de 80 personnes hier matin, dont, pratiquement tous les collaborateurs proches d'Ekrem İmamoğlu.
Et comment vous analysez cette situation par rapport au contexte régional ?
Alors, je crois qu'il y a un contexte quand même national qu'il ne faut pas perdre, c'est la situation économique. Situation économique qui, depuis plusieurs années en Turquie, est très difficile parce que Recep Tayyip Erdogan a entrepris de redresser depuis sa réélection en 2023. Il a changé de pied sur le plan économique. Il a pris des mesures assez classiques, notamment relèvement des taux d'intérêt qui sont passés il y a deux ans en quelques jours de 8% à 50%, bon, il les a un petit peu baissés ces derniers mois, mais enfin, on est dans des recettes classiques, mais ces recettes classiques n'arrivent pas à faire baisser l'inflation, malgré quelques frémissements ces derniers mois. L'inflation reste une inflation de 30-40% en Turquie, avec ces dernières semaines, une monnaie qui se dévalorise et qui d'ailleurs va être à nouveau dévalorisé par ce qui s'est passé, qui ne va pas faire du tout bonne impression sur les marchés. Donc il y a cette situation économique et sociale qui est très difficile et qui justement mettait le gouvernement sous pression pour organiser des élections anticipées. De là, aussi cette espèce d'urgence à bloquer, je dirais, cette marche de Ekrem İmamoğlu vers l'élection présidentielle. Mais sur le plan régional, je dirais, il y a sur le plan régional et sur le plan international. Je pense que la situation internationale a beaucoup changé, c'est vrai, ces derniers mois, elle a beaucoup changé régionalement. Je pense que globalement, sur le plan international, l'arrivée aux États-Unis, il ne faut pas oublier que la Turquie est membre de l'OTAN, qu'elle est proche, malgré le fait qu'elle n'ait pas pu entrer dans l'Union européenne, elle est quand même très liée à l'Europe, et en particulier, bon, les Européens sont les premiers investisseurs en Turquie, mais je pense que le rapport aux Occidentaux a aussi changé avec le retour de Donald Trump, parce que on a un régime aux États-Unis illibéral qui est en train de se mettre en place, où justement on licencie brutalement, on prend des décisions brutales de remaniement de l'État fédéral contre les médias, etc. Toute chose que Recep Tayyip Erdogan a fait, souvent, parfois, d'ailleurs, de manière plus feutrée que Trump. Et là, quand on finalement dans ce contexte international désormais qui est celui de l'illibéralisme, d'une certaine manière, on ne voit pas pourquoi effectivement Recep Tayyip Erdogan respecterait l'état de droit en Turquie alors même que Donald Trump ne respecte pas les décisions de la Cour suprême aux États-Unis ou les conteste, si vous voulez. Donc on a un peu ce contexte global du libéralisme qui me semble être une raison. Et puis bon, bah c'est vrai que sur le plan du contexte régional, le contexte régional avec ce qui s'est produit en Syrie en décembre dernier, c'est-à-dire le renversement du régime de Bachar el-Assad, a remis en selle sur le plan régional Recep Tayyip Erdogan, parce que c'est une victoire stratégique contre la Russie et contre l'Iran. Donc elle le replace véritablement un peu en puissance régionale, alors même que la Turquie a été un peu sur la touche depuis le début de la guerre de Gaza, bon, bien que Recep Tayyip Erdogan et condamné de manière virulente ce qui s'est passé à Gaza. C'est même fait un peu le porte-drapeau de la cause palestinienne et du Hamas. En même temps, il n'a pas été vraiment dans les processus de négociation, il a été plutôt marginalisé. Donc là, c'est vrai que la Syrie, ça a été un retournement, ce que Recep Tayyip Erdogan a appelé la révolution magnifique, parce que si pour la Turquie, finalement, un gain stratégique, qui est un gain stratégique énorme, même s'il n'est pas sans limite. Mais on avait un peu ce président qui regagnait de la légitimité sur le plan international et qui en même temps était très affaibli sur le plan domestique, sur le plan national. Bon, vous disiez que c'est aussi quelque chose qu'on connaît dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'on est un peu dans une situation ambivalente à ce niveau-là.
C'était Jean Marcou, professeur émérite à Sciences Po Grenoble et spécialiste de la Turquie. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode de Grand Angle.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.